Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne. pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 22 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran a échoué à mettre à genoux le peuple iranien, a souligné le président élu iranien Ebrahim Raisi. Un drone d'espion américain abattu au Yémen. L'Occident doit admettre sa responsabilité de la détérioration de la situation humanitaire en Syrie, selon le ministre russe des Affaires étrangères. Des scientifiques africains appellent à investir dans la recherche pour renforcer la résilience climatique. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président élu iranien Ebrahim Raisi a tenu ce lundi 21 juin sa première conférence de presse à Téhéran après avoir remporté une victoire écrasante à l'élection présidentielle iranienne vendredi. Il a affirmé que la campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran a échoué à mettre à genoux le peuple iranien. Le président élu a affirmé que l'approche de négociation pour négociation n'aurait aucune place dans son gouvernement. Nous ne permettrons pas que les négociations deviennent érosives. Toute séance de négociation doit aboutir à un résultat, un acquis en faveur de la grande nation iranienne, a-t-il indiqué. Ebrahim Raisi a tenu à dire que le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire de 2015, ne serait pas un point de départ ni une limite pour la politique étrangère de son gouvernement, ajoutant qu'il entend développer des relations constructives et équilibrées avec tous les pays du monde. Le président élu iranien a affirmé que toute négociation qui protège les intérêts nationaux de l'Iran serait soutenue par son administration, mais nous ne lierons pas la situation économique et les moyens de subsistance du peuple à ces négociations et nous n'autoriserons pas l'approche négociée pour négocier, a-t-il poursuivi. Interrogé sur une proposition du président américain Joe Biden de signer un nouvel accord avec l'Iran pour traiter également du programme de missiles du pays et de son influence régionale, Raisi a affirmé que ces deux questions ne sont pas négociables. Et en réponse à un journaliste étranger qui lui a demandé s'il serait prêt à tenir une réunion avec le président américain, le président élu iranien a répondu non. Cette première conférence de presse du président réel iranien a été largement évoquée et relayée par les médias régionaux et internationaux. Un drone espionnage américain a été abattu à Maribo, au Yémen. Lundi soir, la chaîne Al-Alam al-Arbi au Yémen a diffusé une vidéo du moment de l'interception et de l'écrasement du drone américain. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a annoncé la destruction d'un drone espion américain du modèle de Skunk Eagle sur le front de Sarwa dans la province de Marib. L'Arabie saoudite est sur le point de perdre la plus importante base qu'elle occupe à mesure que les forces yéménites atteignent les zones stratégiques en banlieue de Marib. L'Occident doit admettre sa responsabilité de la détérioration de la situation humanitaire en Syrie, selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les pays occidentaux sont responsables de la détérioration de la situation humanitaire en Syrie, les appelant à en admettre la responsabilité et à renoncer à l'interprétation unilatérale des questions humanitaires. Dans une conférence de presse qu'il a tenue conjointement avec la secrétaire générale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Helga Schmidt, Sergei Lavrov a souligné la nécessité de faire participer la Syrie à l'acheminement de l'aide, réaffirmant que la Syrie est disposé à le faire, mais les partenaires à l'ONU et d'autres parties n'avaient pas jusqu'à présent coordonné cette position claire et légale. Sergei Lavrov a critiqué la politique des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis des Syriens déplacés, assurant qu'ils œuvrent pour entraver leur retour à leur patrie et les faire rester dans les camps des réfugiés au Liban et en Jordanie. Le chef de la diplomatie russe a abordé la soi-disant loi César et les mesures coercitives et unilatérales américaines visant le peuple syrien, faisant savoir que leur objectif est d'entraver, d'apporter de l'aide pour la reconstruction des infrastructures en Syrie et de faire retourner la situation humanitaire du peuple syrien comme elle l'était avant la crise. 11 terroristes neutralisés au Burkina Faso en une semaine. L'armée burkinabé a déclaré avoir neutralisé au cours de la semaine du 14 au 20 juin 11 terroristes présumés dans des opérations de sécurisation du territoire. Dans son rapport hebdomadaire de la situation des opérations, l'armée a souligné que du 14 au 16 juin 2021, sur la base de renseignements précis, une opération a été conduite par des unités du groupement des forces armées dans 3 localités. L'opération qui a consisté en un engagement aéroterrestre a permis de détruire 3 bases terroristes dans le village de Nakor, Tougour, Dourousseni et de Bouraï Nimar. 11 terroristes ont été neutralisés, de l'armement, des munitions, plusieurs motos et des moyens de communication ont été récupérés, a affirmé le rapport. Des scientifiques africains appellent à investir dans la recherche pour renforcer la résilience climatique. Des scientifiques ont indiqué à Nairobi que des investissements robustes dans la recherche sur le climat étaient essentiels pour informer l'élaboration de politiques permettant de renforcer la résilience des communautés africaines face aux événements climatiques extrême. Catherine Nguila, directrice exécutive par intérim de l'Académie africaine des sciences basée à Nairobi, a estimé que la lutte contre le sous-financement de la recherche climatique sur le continent devrait être au cœur de ses efforts de lutte contre la pandémie verte. Nous devons mobiliser des ressources pour aider les chercheurs africains à acquérir l'expertise nécessaire pour faire face à la crise climatique sur le continent, a déclaré Madame Nguila. Selon elle, les gouvernements africains devraient s'appuyer sur un partenariat avec l'industrie et les organisations philanthropiques locales pour stimuler le financement de la recherche sur le continent dans un contexte de baisse du soutien des donateurs étrangers. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. En Syrie, les États-Unis continuent d'enrôler les miliciens du groupe terroriste Daesh, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Une base américaine illégale en Syrie a fait l'objet d'une attaque dans la nuit de dimanche à lundi, a assuré le site de la télévision Rebeb Al-Ola. La base en question se trouve à Al-Shadadi, dans la province sud de Asakedo, au nord-est de la Syrie. Trois obus de mortier ont été tirés sur cette base vers minuit, a indiqué la télévision, selon laquelle il n'y a pas d'informations sur les tirs. Les tirs ont causé des dommages. Ces tirs sont intervenus au moment où l'agence de presse syrienne officielle Sana a révélé que les forces d'occupation américaines ont transféré vers cette base un groupe de terroristes de Daesh pour leur faire subir un entraînement par les services de renseignement américains afin qu'ils exécutent des attentats contre l'armée syrienne, les forces russes et des zones résidentielles. Ces miliciens se trouvaient auparavant dans la prison du lycée industriel à l'entrée sud de la ville de Asakede, qui est gérée par la milice à majorité kurde des forces démocratiques syriennes, collaboratrice des États-Unis. Pendant le transfert des terroristes, l'aviation américaine a opéré un vol à basse altitude au-dessus de Asaké, précise Sana. Le mois d'avril dernier, les forces américaines avaient transféré des miliciens daéchistes vers le gisement de pétrole Al-Omar dans la province est de Deir ez-Zor. Le mois précédent, une quarantaine de ces miliciens terroristes takfiristes avaient été transportés depuis la prison Al-Hol à l'est de Asaké vers la base Al-Shadadi. Entre-temps, les troupes américaines continuent d'asseoir leur présence illégitime, selon Damas, dans les bases qu'elles ont édifiées dans le nord-est syrien et dont le chiffre dépasse la douzaine. Le média russe Russia Today a indiqué qu'un convoi formé d'une trentaine de camions, dont certains transportant des bulldozers, des véhicules blindés ainsi que des camions couverts transportant des équipements de logistique et des camions citernes, est arrivé dans la ville de Qamishli en provenance du Kurdistan d'Irak après avoir franchi le passage Al-Walid entre la Syrie et l'Irak. La majeure partie des provinces syriennes de Hasakeh, Deir ez-Zor et Raqqa, riches en hydrocarbures, sont occupées par les FTS avec l'aide des forces d'occupation américaines.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, discours prononcé hier. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a souligné ce qui se passe en Palestine occupée, à Quds et à Al-Aqsa prouve que nous nous sommes confrontés à un ennemi d'idiot et de rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah a également souligné que l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, que sa demeure soit au paradis, avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Et Seyyed Hassan Nasrallah de préciser encore, les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacré. Il faut que l'Oumma les soutienne. Nous devrions faire remarquer de Seyyed Hassan Nasrallah de faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir bonjour. Accepté notre invitation.
Bonjour, merci.
Madame Midani, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle est, d'après vous, l'importance de ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, qui a évoqué également la crise du Yémen, qui a évoqué également la crise que traverse actuellement le Liban, et tout en soulignant que le Liban peut solliciter l'aide de l'Iran pour, en fait, de sortir de cette crise. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
De grandes victoires qui ont été réalisées en Palestine, au Yémen et en Syrie. Et puis en même temps, il y a une grande crise au Liban. Il a retracé, en fait, Mahmoud Chassoum a retracé l'historique des victoires de la résistance, en fait, et puis l'historique aussi de sa création, je dirais. Donc, c'est très important, en fait, de souligner effectivement toutes les victoires, surtout pour ceux qui sont en train de dénigrer et de renier ces victoires et de dire que c'est...
Madame Madame Idanit, nous avons fait une mauvaise liaison avec Paris. Nous allons partir tout de suite, le monde de la technologie nous le permet, nous allons partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arne de Volley. Mes amis à la régie vont revenir vers Aïssar Midani pour établir ce contact et cette liaison. Maître de Volley, je vous pose en fait la même question. Quelle analyse portez-vous sur ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît?
Ben écoutez, j'ai comme première impression déjà d'un discours qui portait à rassurer les habitants, rassurer les gens non seulement quant à l'état de santé du Sahel, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines, certainement amplifiées, peuvent porter par certaines parties qui avaient intérêt justement à laisser un peu les doutes. Donc il a appelé à rassurer en séminaire. Que sa santé était fixe et que toutes les différentes analyses d'experts porteraient à essayer de déterminer ce quoi les alliés souffriraient sont des préventifs. Rassurant aussi, il y a un ton qui, dans sa maestria habituelle, a fait la télévision régionale. En soulignant bien sûr la situation donc, dans la péninsule arabique au sens large et la victoire économique contre l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, en mettant le poids aussi en insistant sur le fait que lorsque les opérations militaires ne vont pas dans le sens des investisseurs, malheureusement, c'est la population qui est guidée et que dans ce contexte particulier, les offres de paix ou les approches sont en fait empreintes politiques puisqu'elles n'utilisent pas justement à alléger les bus qui empêchent les peuples économiques de manger à sa faim. Il a aussi évoqué la situation en Syrie en parlant bien, en suivant bien justement cette opération dite FITMA. Parce que c'est ce qui caractérise la situation syrienne dans sa genèse, et jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, en soulignant que les portes légitimes avaient repris la main sur la situation. Et il a bien sûr évoqué la situation au Liban, en mettant, ça veut dire, sous l'optique ses alliés de la coalition, que s'il ne prenait pas la responsabilité en formant un gouvernement, il prendrait acte de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour éviter justement que le peuple libanais soit lui-même l'objet d'un siège alimentaire et économique tel que le pays s'en remettrait pas. Donc il a mis en garde, il a été très clair sur ça. Et point très important, il a dit essentiellement, mais il n'est pas peur de terminer. On dirait que vous êtes probablement en parlant de ces années aussi. Vous semblez avoir une peur non fondée des États-Unis, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous mettons une sous-avertissement. Si vous ne prenez pas les décisions législatives qui permettent d'entériner les mesures que nous avons commencé à prendre, nous prendrons les mesures qui sont faites parce que bah, nous sommes un parti responsable, un parti qui a toute responsabilité, et ce que nous ne pouvons pas, que la situation se détériorer sans rien faire. Mmh. C'est peut-être une façon un peu de grimper l'horizon, de rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires quant à l'avenir en ce moment, et la voix de Saïd Nasrallah dans ce contexte est toujours des plus rassurantes.
Notre liaison, merci beaucoup, notre liaison, fort heureusement, avec Paris, et plus précisément avec Madame Aïssar Midani a été rétablie. Madame Midani, rebonjour.
Rebonjour, rebonjour à vous.
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, oui. Et vous m'entendez bien?
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, notre liaison a été mauvaise. Là, notre liaison est très bonne. Madame Midani, vous étiez en train de faire votre analyse de ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah. Je vous en prie, la parole est à vous.
Ok, alors effectivement, je disais que c'était important de rappeler l'ensemble des victoires depuis la création de la résistance qui a été donc dans les années 80-82 qui a été créé et qui s'est, et l'ensemble des victoires qui se sont soldées par la libération du Liban en 2000, du sud-Liban en 2000, puis de la victoire en 2006, et puis l'ensemble des victoires aussi bien de la résistance libanaise, mais aussi de la résistance palestinienne, de la construction de ponts entre la résistance libanaise et la résistance syrienne avec le peuple syrien, le peuple palestinien et le peuple yéménite. En fait, toutes ces victoires et toutes ces synergies au niveau de la résistance étaient aussi animées et construites par la radio-télévision Almana, qui est une télévision et radio engagée pour la résistance et qui ne cherche pas du tout le profit, mais qui cherche plutôt à construire effectivement cet esprit de résistance et d'offensive et en fait et de vérité. Donc il était important aussi, ce qu'il a souligné et c'était très très important, c'est que de toute façon il y avait aussi, on a affaire à des ennemis qui sèment toujours qui sèment le doute et qui sèment la discorde, qui cherchent toujours à créer diversion, et nous sommes à surmonter la diversion, et on arrive par la prise de conscience de nos intérêts communs face à cet ennemi sioniste qui est là et qui est idiot et qui est aussi peut aller très loin en période d'aventure. Donc c'était important de mettre le holà et les lignes rouges à cet ennemi. Et puis, aujourd'hui, il est important aussi d'être prêt, toujours, pour les batailles à venir. Mais aussi, donc, il a souligné les dernières victoires de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, mais aussi de la Syrie, du peuple syrien et de sa résistance aussi. Donc, cette coopération au niveau des résistances qui a changé la donne, je dirais, au niveau de la région. Mais aussi, il est important, donc il est revenu à la fin sur la crise libanaise, où il affirme qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute façon, les solutions sont là. On peut toujours avoir des solutions. Nos ennemis cherchent à nous faire mourir de faim et à chercher à nous mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça, nous ne le ferons pas. Nous avons des solutions, nous avons des amis très proches, stratégiques comme l'Iran, qui pourraient, à la suite d'une décision importante, courageuse, une décision politique libanaise qui pourrait être prise par des responsables politiques libanais, elle pourrait nous fournir l'essence, le fuel, etc., qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne faut pas accepter cet état, il ne faut pas accepter ces solutions que l'Occident veut nous imposer, qui sont des solutions qui nous mettent à genoux et qui nous mettent à leur merci, parce qu'il y a d'autres solutions où nous pouvons être toujours souverains et respectés. Donc ça, c'est un point, je pense que ce sont des différents points très importants. Il a souligné l'importance aussi de l'alliance stratégique entre toutes les... Mais pas seulement dans l'axe de la résistance, mais aussi que de toute façon, la Jérusalem est... Jérusalem, c'est quand même le centre de la religion musulmane et de la religion chrétienne, et il est important de défendre Jérusalem que la défense soit prise en compte par l'ensemble des peuples musulmans et des peuples chrétiens face à cette offensive. Et qu'aujourd'hui, il faudra qu'on mette aider. Il faut quand même que l'ennemi comprenne que l'agression contre Jérusalem, ça veut dire aussi une guerre très importante, régionale, et qui le mettra en danger. Ça, ce sont les points clés, je dirais. Et il est important aussi que, de reconnaître que ce sont que les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens de Palestine occupés en 1948, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ils ont défendu, et de Jérusalem, ont jusqu'à présent défendu et défendent toujours Jérusalem, mais il faudra aussi les soutenir et s'engager dans ce combat de défense de Jérusalem qui est le nôtre.
Merci beaucoup. Maître Develet, Madame Idani vient de faire allusion en fait à ce point qui a été évoqué par le secrétaire général du Hezbollah libanais qui a en fait souligné que la défense d'Al-Quds, la première des priorités. Et il a, Madame Midani également vient de l'évoquer tout à l'heure, a dit que voilà, nous devons agir de sorte que toute agression contre Al-Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Maître Develet, là, cet Hassan Nasrallah semble avoir lancé une sévère mise en garde au régime israélien, comme quoi s'il y a une agression contre Al-Quds, ça entraînera une guerre régionale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments et des composantes de l'axe de la résistance y réagira.
Oui, tout à fait. De toute façon, Saïd Nasrallah a toujours été cohérent dans ses positionnements stratégiques et il tient le discours de quelqu'un. Il a confiance en ses forces, en sa capacité à infliger des coups de terre à l'ennemi. Et ce faisant, il tient à lancer un message plus ou moins voilé aux autorités sionistes, que ceci soit à l'avenir représenté par la coalition avec un facette d'infrastructure, ou bien en faveur de. Une cuisine interne israélienne, un retour aux affaires de Netanyahou, ça n'a aucune importance de toute façon. Par contre, ce qui souligne, c'est qu'on a en Netanyahou des points extrêmement impulsifs, revanchards, on va dire amers et pacifistes à toutes les points. Donc, comme il a compris à qui il avait affaire, il met en garde quelque part le Netanyahou ou les autorités sionistes et l'armée générale contre toute tentation de créer une situation insécurité qui, comme il l'a suivi, effectivement, en Samara, une réponse à l'échelle régionale, ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message que malgré les difficultés que traverse le Liban actuellement, n'allez pas imaginer que les capacités et la vigilance de l'Hezbollah s'en trouvent inversement affectées. Donc, que les choses soient bien claires. Donc, c'était important de souligner, il l'a souligné dans son discours, et à partir de là, que les choses soient claires, non seulement nous sommes prêts à toute éventualité, et d'ailleurs, les provocations ces derniers jours, on les souligne, hein, on a eu. C'était pas quelque chose d'assez grotesque, d'assez pittoresque, avec l'armée sioniste qui a déployé des blindés pour l'histoire de fameux à la frontière, sans succès d'ailleurs. Et puis ce matin encore, des fusées imminentes en plein jour. Donc voilà, c'est un petit peu le genre le comportement irrationnel auquel nous sommes confrontés, enfin, auquel nous sommes témoins. Mais bon, il faut garder. De toute façon, les sionistes ont été rappelés à l'ordre, si je puis dire, au travers des 11 jours d'opération de la faute. Que le paradigme a changé, les forces en présence ont complètement mis en jeu leur synergie et leur capacité politique à constater un petit agression sioniste. Et qu'à partir de là, le discours est cohérent, il est limpide, il est clair et il est plus consistant.
Madame Midanit, s'agissant en fait du Yémen, c'est Hassan Nasrallah a qualifié en fait de trompeur le geste de médiateur que s'offrent les États-Unis envers la crise du Yémen. En fait, s'agissant de ce point, il a préciser, tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Exactement, c'est tout à fait parce que les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, n'arrêtent pas de proposer soi-disant des cessez-le-feu, mais en fait. Et d'abord, les Saoudiens ne cessent pas du tout, ils continuent à bombarder et à bombarder les civils et à bombarder l'ensemble des installations au niveau du Yémen. D'un autre côté, on voit que l'embargo continue, il y a même des navires avec des produits pétroliers qui sont dans le port, pas loin du port de Hodeïda, que nous interdisent aussi. De les décharger au Yémen. C'est effectivement, donc ils veulent continuer, ils veulent que les Yéménites arrêtent les combats, alors que les Saoudiens continuent à bombarder, et ils veulent aussi, il n'est pas question de lever l'embargo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer des conditions à un peuple qu'on affame, qu'on affaiblit, qu'on essaye d'affaiblir aussi au niveau de la santé en temps d'épidémie, et qu'on veut faire effectivement négocier, voire en fait faire du chantage à ce peuple et aux révolutionnaires yéménites. Leur faire du chantage avec une sorte de goutte à goutte alimentaire, hein, et chaque goutte serait l'objet d'un chantage et puis les faire céder. Donc, c'est en fait ce que Samahat Cheikh Nasrallah a dit, que c'est un véritable mensonge, que les États-Unis mentent et ils font miroiter des choses alors qu'ils ne les appliquent pas. Et ce sont, en fait, il faut prendre conscience que ce sont des vrais menteurs qui veulent avoir le tout pour rien, et qui font justement qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la paix, alors que c'est un discours trompeur, je dirais.
Merci.
Comme la majorité des discours, en fait, des États-Unis et puis de leurs alliés dans les guerres, pas seulement dans cette guerre, à vrai dire, parce que nous, en Syrie, on en a aussi une véritable expérience de ce qu'ils racontent, des mensonges.
Merci beaucoup.
Qu'ils publient aussi, et la réalité de leurs actions.
Merci infiniment, Madame Aïssar Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission. Depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volet, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. We'll be right back. Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. La marine iranienne a dévoilé son nouveau destroyer Dena. Les forces armées de la République islamique d'Iran n'ont jamais suivi une politique agressive et nous déclarons explicitement à nos chers voisins que le pouvoir de nos forces armées vous protège également et n'est pas contre vous, a déclaré le président Rouhani. Le président iranien a déclaré lors de la cérémonie virtuelle d'inauguration des plans nationaux du ministère iranien de la Défense, y compris la livraison du destroyer Dena à l'armée de mer. L'industrie de défense du pays, en profitant du savoir-faire des experts locaux, ont réalisé un destroyer très important et aujourd'hui ce destroyer est prêt à accomplir toutes sortes de missions. La marine iranienne a toujours été une force puissante depuis le début de la révolution jusqu'aujourd'hui. Les gens se souviennent que dans les premiers mois de la guerre imposée, la marine iranienne a complètement détruit la marine irakienne et après 2 ou 3 mois, nous n'avons pas vu de navires irakiens flotter dans le golfe Persique et la marine irakienne a été détruite par l'armée de la République islamique d'Iran, a précisé le président Rouhani. Lors de cette cérémonie tenue à Bandar Abbas, en présence du ministre iranien de la Défense, du commandant de l'armée de mer et du chef de l'organisation de l'industrie maritime, la marine iranienne a inauguré 2 navires de fabrication iranienne, le destroyer Dena et le chasseur de mines Shahin. Le destroyer de Dena est un porte-hélicoptère équipé de plusieurs systèmes défensifs et offensifs de fabrication nationale et en plus d'une capacité de navigation dans les mers lointaines et les zones océaniques. Les États-Unis doivent d'abord lever les sanctions imposées à l'Iran avant de rejoindre le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire de 2015, selon Pékin. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis devraient d'abord lever toutes les sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran afin de revenir à l'accord nucléaire de 2015. Wang Yi a fait ces remarques alors que des négociations sont en cours à Vienne pour revitaliser éventuellement l'accord qui a été abandonné par l'administration de Trump en mai 2018. Pour revenir à l'accord, lever d'abord les sanctions contre l'Iran est la chose naturelle à faire, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères dans un discours à la conférence du désarmement à Genève. Le ministre chinois des Affaires étrangères, dont le pays est parti à l'accord, a ajouté « Alors que les négociations pour que les États-Unis et l'Iran reprennent le respect de l'accord sont maintenant dans le sprint de finale, les parties concernées doivent prendre une décision politique le plus rapidement possible et redoubler d'efforts diplomatiques pour remettre le plan global d'action conjoint sur les rails. » Wang Yi a une fois de plus réitéré la position de la Chine selon laquelle le plan global d'action conjoint d'accord sur le nucléaire de 2015 a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU et est un résultat important de la diplomatie multilatérale et un pilier clé du régime international de non-prolifération nucléaire et de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. « Les factions de la résistance palestinienne de Cisjordanie et de Gaza ont affirmé qu'elles ne voyaient que peu de différence entre le gouvernement sortant de Benjamin Netanyahou et le nouveau gouvernement du changement dirigé par Naftali Bennett. Le Hamas, mouvement de la résistance islamique de Palestine, a indiqué que le départ de Benjamin Netanyahou ne mettra pas fin à cette tentative de détruire l'entité sioniste. Quelle que soit la forme du gouvernement israélien, cela ne changera pas la nature de nos relations avec Israël. C'est une entité d'occupation qui doit faire l'objet d'une résistance et à laquelle nous devons arracher nos droits par toutes les formes de résistance, au premier rang desquelles la lutte armée, a déclaré le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum. À Ramallah, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à peu de changements dans la politique israélienne envers les Palestiniens. Un gouvernement sans Netanyahou a été formé en Israël. Cependant, il est inexact de le qualifier de gouvernement de changement, à moins de vouloir dire que Netanyahou n'est plus là. En ce qui concerne les politiques du nouveau gouvernement, nous estimons qu'il n'y aura aucune différence ou peut-être même qu'elles seront pires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne dans un communiqué. Les sociétés d'espionnage US-israéliennes en coopération avec la coalition Saoudo-Emirati. Le magazine français Intelligence Online avait fait état de la coopération en matière d'enseignement de deux sociétés américaines avec la coalition d'agression saoudienne au Yémen. Le rapport indique que la société américaine Five Domains, avec l'aide d'anciens membres de la CIA et de l'Agence de sécurité nationale NSA, ont signé un accord avec le gouvernement saoudien pour collecter et analyser des données du renseignement militaire au Yémen. Cet accord est l'un des accords stratégiques du gouvernement saoudien conclu avec les États-Unis. Five Domains s'est associé à l'AITTC depuis qu'il a remporté une offre de vente d'équipements stratégiques à l'Arabie saoudite en décembre dernier et les deux sociétés ont aidé à collecter et à décrire des données militaires importantes pour aider les services de renseignement saoudiens. Les deux sociétés travaillent ensemble pour aider l'agence de renseignement saoudienne à analyser et à interpréter d'importantes données militaires collectées à partir d'images aériennes et satellitaires ou d'individus. Selon la publication Intelligence Online, la plupart de ces agents avaient déjà opéré en Afghanistan, en Irak, et certains comme Michael Kirby ont travaillé dans le domaine du renseignement technique et militaire. Selon des sources sur le terrain au Yémen, la réduction de la coopération a eu un impact significatif sur des frappes aériennes sans succès de la coalition d'agression saoudienne dans la province de Marib. Entre-temps, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré que les forces des comités populaires d'Ansar Allah avaient arrêté un espion du Mossad. Nous allons dénoncer bientôt l'ingérence de l'entité sioniste dans les affaires intérieures du Yémen, a-t-il souligné sur Twitter. En Syrie, les habitants de la localité de Jadid Bakarah, dans la banlieue de Deir ez-Zor, manifestent contre les pratiques de la milice des FTS. Les habitants de la localité de Jadid Bakarah, dans la banlieue de Deir ez-Zor, ont manifesté contre les pratiques de la milice des FTS soutenues par les forces de l'occupation américaine, selon l'agence de presse syrienne Sana. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana que des manifestations populaires étaient sorties dans la localité de Jadid Bakara, dans la banlieue est du gouvernorat, contre la milice de FTS et avait condamné leurs pratiques criminelles contre les habitants ainsi que l'insécurité, le chaos, le pillage des récoltes et des propriétaires. Les manifestants avaient réclamé l'expulsion des hommes armés de la milice des FTS et l'occupation américaine de cette région. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.